Les dessous de l'Infox. Grégory Genevrier.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les dessous de l'Infox. Véritable enjeu de politique internationale, la régulation des réseaux sociaux est plus que jamais au cœur des préoccupations des pouvoirs publics. En quelques années, les législations pour mettre fin au Far West sur les plateformes se sont multipliées. Mais dans les faits, sont-elles efficaces? Les grandes firmes jouent-elles le jeu? Et quels sont les impacts sur les droits des internautes? On en parle avec notre invité Romain Badoir. Il est enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris Panthéon Assas. L'armée américaine serait-elle sur le point de mener des frappes nucléaires? C'est ce que prétendent des internautes ces derniers jours, vidéo à l'appui. Olivier Four a mené l'enquête sur ces images sorties de leur contexte. Et puis cap sur les pays du Golfe, balayés cette semaine par des précipitations extrêmes. Un phénomène climatique qui n'échappe pas aux théories du complot. Juliette Gache, des observateurs de France 24, sera avec nous pour démêler le vrai du faux. Mais avant ça, place à l'invité.
On en parle.
Bonjour Romain Badoir.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences de l'information et de la communication, maître de conférences à l'université Paris 2 Panthéon Assas. On vous doit notamment le désenchantement de l'Internet, désinformation, rumeurs, propagande aux éditions FIP, ou plus récemment les nouvelles lois du web, modération et censure aux éditions du Seuil. Depuis plusieurs années, vous vous intéressez à la régulation des réseaux sociaux numériques. Romain Badoir, quand on parle de régulation, de quoi parle-t-on concrètement ?
Quand on parle de régulation sur les plateformes numériques, on parle des règles justement qui sont imposées aux plateformes, alors qu'ils peuvent être imposées par des lois, mais aussi par d'autres formes de normes ou de règles, notamment en termes de circulation des contenus, alors c'est-à-dire en fait des publications. Lorsqu'on publie des photos, des textes, des vidéos sur les réseaux sociaux, quelles sont les règles qui sont imposées aux plateformes, par exemple en matière de violence en ligne, de sexisme, de harcèlement, et comment peut-on faire respecter ces règles? Et ce qui intéresse les États notamment, c'est comment faire appliquer les lois nationales sur des réseaux sociaux qui, eux, sont internationaux.
Et alors, quelles sont les cibles prioritaires de cette régulation?
Alors, historiquement, les cibles prioritaires, ce sont les contenus pornographiques et pédopornographiques, et puis très rapidement aussi les contenus liés au droit d'auteur et au respect du droit d'auteur sur ces plateformes. Et depuis le milieu des années 2010, c'est plutôt les contenus terroristes, la désinformation ou les discours de haine dont on parle le plus.
Parce que quand on parle de régulation, ce qui est important de préciser, c'est qu'on a l'impression que c'est une notion récente, mais en fait on parle de régulation depuis la démocratisation d'Internet.
Voilà, exactement, ça existe depuis les années 90, depuis les débuts de l'Internet grand public. On a cherché à réguler Internet dans son ensemble avec plus ou moins de difficultés, parce qu'Internet, contrairement aux médias de masse, c'est un réseau international. On peut consulter des contenus depuis un pays, mais ces contenus peuvent être hébergés sur des serveurs dans un autre pays. Donc il y a tout un micmac techno-juridique qui rend particulièrement complexe la régulation d'Internet. Et puis dans les années 2010, le succès des réseaux sociaux font que en fait, les États sont quand même contents d'avoir des interlocuteurs comme Meta pour Facebook, Instagram ou WhatsApp ou Google pour YouTube, parce qu'au moins ils peuvent faire pression sur des acteurs pour faire appliquer les lois.
L'un des enjeux récents, vous l'avez dit, de la régulation, c'est la lutte contre la désinformation et les ingérences numériques. L'exemple qui a marqué les esprits, c'est la campagne présidentielle américaine de 2016. On s'en souvient, la Russie avait utilisé les réseaux sociaux, notamment Facebook, pour diffuser des contenus pro-Donald Trump et au contraire anti-Hillary Clinton. On parle aujourd'hui de 50 000 faux comptes utilisés pour influencer l'opinion américaine. Est-ce qu'on peut dire que cette campagne de désinformation a été un tournant ?
Alors oui, il a été très clairement un tournant en termes de régulation, parce que avant cela, les plateformes rechignaient justement à faire appliquer les lois nationales sur leur réseau. La posture des grandes plateformes, c'était de dire nous, on est des plombiers, on gère des tuyaux d'information, ce qui circule dedans, ça ne nous regarde pas, donc ce que les utilisateurs ont le droit de publier un peu ce qu'ils veulent, et puis ce qui relève des fausses informations, d'informations, bah, ça relève du mensonge. Tant qu'il n'y a pas de diffamation, on a encore le droit de mentir en démocratie. Donc, en gros, il refusait de réguler ce type de contenu.
Parce qu'il se considère, il se considère comme des hébergeurs et non comme des éditeurs.
Exactement. D'un point de vue juridique, il y a la distinction entre éditeurs et hébergeurs. Les éditeurs, ce sont par exemple les médias qui ont une responsabilité éditoriale par rapport à ce qu'ils publient et ils peuvent être poursuivis lorsqu'ils publient des fausses informations ou des articles qui donnent lieu à de la diffamation. Inversement, d'autres intermédiaires techniques, comme on dit, dont les plateformes, veulent se voir reconnaître un statut d'hébergeur, c'est-à-dire que eux, tout ce qu'ils font, c'est héberger des contenus, mais sans responsabilité éditoriale. Sauf que, en fait, on voit bien que ça ne marche pas trop, cette distinction. Parce que si vous prenez un réseau social comme Facebook, par exemple, Facebook est à la fois hébergeur, c'est-à-dire qu'il n'exerce pas de contrôle sur ce que disent les internautes, on est libre de publier ce qu'on veut, mais pour autant, avec leurs algorithmes, ils vont mettre en avant certains contenus, ils vont en invisibiliser d'autres. Et donc, en fait, concrètement, ils réalisent des actions proprement éditoriales. Donc, à ce titre, ils ont un statut un peu intermédiaire entre hébergeur et éditeur.
Et alors, est-ce que la campagne américaine de 2016 a permis une prise de conscience autour de ce débat-là ?
Effectivement, donc, on s'est rendu compte à ce moment-là que les tentatives de désinformation, notamment les ingérences étrangères, et vous parliez de la Russie, et effectivement, la Russie était et est toujours d'ailleurs à la pointe sur ces manœuvres-là, on s'est rendu compte que les contenus publiés par la Russie avaient été vus par plus de 100 millions d'Américains pendant la campagne. Et si on n'arrive pas à mesurer l'influence que peuvent avoir de la publication de tels contenus, on se doute quand même que ça ne fait pas de bien au débat public et à la manière dont l'opinion se forme sur des grands sujets de société. Et donc, le Congrès américain a décidé de taper du poing sur la table en auditionnant les principaux dirigeants des grandes plateformes, en exigeant d'eux qu'ils fassent le ménage sur leur plateforme vis-à-vis notamment de la désinformation. Les pays européens ont réagi un peu de la même façon, mais cette fois-ci en faisant voter des lois qui imposent des nouvelles contraintes à ces grandes plateformes.
Et est-ce qu'on avait sous-estimé la menace avant cette campagne de 2016 ?
Alors oui, on l'avait sous-estimé parce que effectivement les rumeurs, ça a toujours existé, la propagande, il y avait rien de nouveau. Ce qu'on n'a pas vu venir à l'époque, c'est la manière dont la rumeur et la propagande pouvaient s'allier avec le modèle économique des réseaux sociaux, c'est-à-dire le modèle du marketing ciblé. Lorsque l'on va sur les réseaux sociaux, les plateformes récupère tout un tas de données nous concernant, ce qu'on aime bien regarder et donc nos goûts, avec qui on parle, quelles sont nos préférences politiques, mais aussi culturelles, gastronomiques ou sexuelles, voilà. Et ce qui s'est passé en 2016 et par la suite aussi, c'est des puissances étrangères qui vont utiliser ces données personnelles qui sont mises à disposition par les plateformes, notamment aux annonceurs, donc aux publicitaires qui veulent publier des publicités sur les réseaux. Et ces données ont été utilisées pour faire de la propagande ciblée et diffuser des messages très précis à des types de publics très précis.
Après 2016, justement, plusieurs pays ont fait le choix de durcir la régulation des contenus sur les réseaux sociaux. Je pense à l'Allemagne, notamment avec sa loi contre la haine en ligne, à la France avec la loi sur les manipulations de l'information en 2018. Récemment, l'Union européenne a mis en place le Digital Services Act, le DSA. En résumé, tout ce qui est illégal hors ligne doit aussi l'être en ligne. C'est la philosophie globale de cette législation. Les réseaux sociaux doivent respecter de plus en plus de normes, c'est un constat. Mais dans les faits, est-ce que les choses changent vraiment, Romain Badoir ?
Elles commencent à changer. Alors, le Digital Services Act, donc le règlement sur les services numériques, il est entré en vigueur l'année dernière. Donc, les choses se mettent en place tout doucement. Pour autant, c'est quand même un tournant dans l'histoire des législations sur le numérique, parce qu'il impose quand même des contraintes très fortes aux propriétaires des plateformes, notamment en termes de modération des contenus, en termes de transparence aussi de leurs pratiques de modération. Et donc, ces plateformes sont tenues de respecter ces nouvelles normes, ou sinon, elles se verront imposer des amendes. Surtout, ce que la Commission européenne a bien compris, c'est que pendant des années, on a dit que les plateformes étaient plus fortes que les États. Mais on se rend compte, en fait, que qu'un territoire comme l'Europe a quand même le pouvoir de se faire entendre parce qu'il représente un marché très important pour ces acteurs de l'économie numérique qui sont souvent américains. Et en fait, le marché européen génère beaucoup de revenus, notamment de revenus publicitaires pour ces acteurs, et que ce soit Google, Meta, X ou d'autres, ils n'ont pas vraiment intérêt à froisser les États européens ni la Commission européenne, ils ont plutôt intérêt à obtempérer. Ceci étant dit, on voit bien que leur logique à eux, à ces plateformes, c'est de dire qu'ils vont obtempérer, qu'ils vont respecter les nouveaux cadres législatifs, mais leur gros intérêt, c'est quand même de garder leur modèle économique pour ne pas perdre de revenus publicitaires. Et ces entreprises qui sont très puissantes, elles ont aussi toute une armée de juristes à leur service qui sont là pour donner des interprétations des nouvelles lois européennes pour essayer de ne pas trop en faire du côté des plateformes. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. On commence à le voir, d'ailleurs, les usagers, souvent, si vous utilisez Instagram ou YouTube ou autre, on va vous demander de consulter les nouvelles règles, etc. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a un nouveau cadre législatif général. Maintenant, est-ce que c'est de nature à changer radicalement les problèmes posés par ces plateformes, ça, c'est pas encore sûr.
Oui, c'est trop tôt pour le dire. Mais ce débat autour de la régulation, il a été relancé la semaine dernière par ce bras de fer entre Elon Musk et le juge brésilien Alexandre de Moraes. Le patron de X, ex-Twitter, refuse de suspendre des comptes soupçonnés par la justice brésilienne de diffuser des fausses informations. Elon Musk a même menacé de ne plus respecter les ordres judiciaires. Le patron d'un réseau social qui menace la justice d'un pays, qu'est-ce que ça nous dit des relations entre États et plateformes ?
Alors ça, c'est un cas qui est effectivement très intéressant. Et Elon Musk, c'est un cas un peu particulier dans ce paysage parce que lui a racheté Twitter, donc devenu X, pour des raisons politiques. Hein. Il l'a acheté très cher pour en faire un espace de liberté d'expression absolue. Mais lorsqu'on parle de liberté d'expression absolue, ça veut dire souvent la liberté des plus forts. Dans le cas présent, on est face à un juge donc, qui représente quand même l'autorité judiciaire de son pays, qui réclame l'exclusion de certains comptes sur X, qui propagent de la désinformation, dans un contexte où le Brésil a quand même beaucoup souffert des campagnes de désinformation d'extrême droite dans un passé récent. Et Elon Musk non seulement s'oppose à une décision de justice, mais en plus se permet d'aller au clash avec un juge brésilien en l'insultant quasiment hein, sur son réseau social pour se donner une fois de plus l'image du défenseur de la liberté d'expression absolue, mais qui en fait dans la pratique défend très clairement des personnages d'extrême droite qui cherchent à diffuser de la propagande mensongère au Brésil. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème quand la justice n'arrive plus à se faire entendre par des acteurs de l'économie numérique comme X, c'est quand même que peut-être que des États démocratiques en viendront à restreindre l'accès à certains réseaux sociaux depuis leur territoire, comme c'est le cas dans des pays autoritaires comme la Russie, la Chine ou l'Iran, où la population n'a pas accès aux réseaux sociaux occidentaux. Ben, peut-être que le gouvernement brésilien devra en venir à suspendre l'accès des Brésiliens à X si jamais X se refuse à obtempérer avec des décisions de justice. Donc, à mon avis, ils n'en viendront pas là, mais on voit bien qu'il y a un bras de fer qui est engagé, qui est assez inédit.
Est-ce qu'on peut dire que les États ont échoué finalement à insuffler leur socle de valeurs démocratiques aux plateformes ?
Oui, ils ont échoué. Ils ont échoué, même si aujourd'hui ils essayent de taper du poing sur la table et ils reprennent un peu les dossiers en main. Donc tout n'est pas perdu, mais on voit bien que c'est quand même le modèle à la fois politique et économique des plateformes qui l'a emporté. Alors, il y a 10-15 ans, on voyait ça plutôt d'un œil positif. Hein. C'était l'époque du printemps arabe. On pensait que le modèle démocratique des plateformes qui défendaient la liberté d'expression, les mobilisations citoyennes, allait propager des idéaux démocratiques. Sauf que ces plateformes, elles marchent sur deux jambes. Il y a une jambe politique, elles ont un projet politique pour le monde, et il y a une autre jambe qui est une jambe économique. Ce sont des entreprises très profitables qui rapportent beaucoup, beaucoup d'argent et qui ont des actionnaires qui exigent de la rentabilité à court terme. Et on voit bien que lorsque leur modèle économique économique menace leur projet démocratique, bah, c'est souvent le projet économique qui l'emporte, quitte à revoir un peu les ambitions démocratiques et quitte même carrément à représenter une menace pour le fonctionnement des démocraties un peu partout dans le monde.
Si on reste sur le cas Elon Musk, l'autre accusation qui lui est faite, c'est son choix de réduire le nombre de modérateurs humains qui surveillent les contenus sur sa plateforme. Lui, il mise plutôt sur la détection automatique. Quel problème est-ce que ça pose ?
Alors, la détection automatique, c'est ce que les plateformes utilisent aujourd'hui très majoritairement parce que, de toute façon, il y a tellement de publications sur ces réseaux sociaux que même avec des dizaines de milliers de modérateurs humains, ça ne suffit pas. Donc, l'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour repérer automatiquement des contenus interdits. Le problème, c'est que cette intelligence artificielle, aussi performante soit-elle, elle a du mal à prendre en considération le contexte des échanges. Par exemple, entre quelqu'un qui tient un propos raciste et quelqu'un qui reproduit un propos raciste pour le dénoncer, le contexte est très différent. Mais c'est très difficile à détecter pour l'intelligence artificielle qui va ainsi produire de la censure, en fait, qui va retirer des contenus qui ne devraient pas être retirés. Et puis, paradoxalement, il y a un autre problème lié à l'intelligence artificielle, qui est qu'elle est facilement contournable. Parce que les groupuscules d'extrême droite, ou les groupuscules terroristes, ou autres, ont très bien compris comment fonctionnait l'intelligence artificielle. Et donc, ils vont utiliser des mots à la place d'autres pour ne pas être détectés par ces outils de détection automatique et pouvoir continuer à exprimer leurs arguments, leurs propos, sans être détecté.
Oui, donc le moyen humain reste important. Et c'est là aussi le problème, c'est que parmi les milliers de modérateurs, par exemple, qui travaillent pour X, à peu près de 2300, un petit peu plus, la plupart surveillent les contenus anglophones. Il n'y a par exemple que 12 modérateurs pour l'arabe ou 2 pour l'hébreu. Les pays du Sud sont-ils les grands oubliés de cette modération ?
Alors oui, très clairement. Et ça, on l'avait vu déjà pour le groupe Meta, à l'époque des révélations de Frances Haugen, qui était une lanceuse d'alerte, qui avait quitté Facebook avec des documents internes qui relevaient justement à quel point le marché de la modération était inégalitaire sur le plan international. On sait que chez Facebook, par exemple, il y a 15 000 modérateurs. Ce qu'elle avait révélé, Frances Haugen, c'est que pour le marché arabophone, qui représente 220 millions d'utilisateurs pour Facebook, donc c'est énorme, il n'y avait que 766 modérateurs qui parlaient l'arabe. Dans certains cas, de manière un peu plus dramatique encore, quand on pense au cas du Myanmar, la Birmanie, et aux violences contre les Rohingyas, la minorité musulmane du pays, et ben à l'époque où ces violences ont eu lieu et qu'elles ont été organisées, légitimées sur Facebook, et bien le groupe n'avait qu'un seul modérateur qui parlait birman. Donc on voit bien qu'il y a des très fortes inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud en termes de modération, qui, à mon avis, s'expliquent tout simplement par le fait que les pays du Sud représentant moins de revenus publicitaires pour ces plateformes, elles les intéressent moins.
L'une des méthodes de modération utilisées notamment par les plateformes et sur laquelle vous avez travaillé, c'est le shadow banning, le bannissement de l'ombre en français. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste ?
Alors le shadow banning, c'est l'idée justement de ne pas censurer les internautes en les empêchant de s'exprimer, mais plutôt de faire en sorte qu'ils s'expriment dans le vide, c'est-à-dire que leurs publications ne soient plus vues par personne. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous ayez un compte Facebook pour votre émission et que tous les jours, vous publiez des informations relatives à vos émissions. Imaginons que vous ayez 100 000 personnes qui vous suivent. Elles sont vues, vos publications, par des dizaines de milliers de personnes tous les jours. Et puis, du jour au lendemain, vous vous rendez compte que vous n'avez plus que 2, 3, allez, 10, peut-être 100 personnes qui les voient. Comment cela est possible ? Tout simplement parce que Facebook, par exemple, va faire en sorte que lorsque vous publiez quelque chose, il ne s'affiche plus ou il s'affiche beaucoup moins souvent dans les fils d'actualité des internautes. Et vu que ces contenus ne sont plus recommandés aux internautes dans leur fil d'actualité, ou via les algorithmes de recommandation sur YouTube, ou par les mêmes algorithmes de recommandation sur TikTok, les gens ne les voient pas. Et vu qu'ils ne les voient pas sur leur fil d'actualité, ils n'ont pas le réflexe de venir sur votre page pour voir ce que vous avez publié. Et donc, vous êtes moins vu, vous êtes moins regardé, moins partagé, et donc, vous n'êtes pas à proprement parler censuré, puisque vous continuez à vous exprimer, mais personne ne vous voit, plus personne ne vous entend.
Alors, est-ce qu'on peut parler avec toutes ces restrictions d'un recul du droit des utilisateurs ?
Alors oui et non, parce que d'un côté, il y a un recul des droits des utilisateurs qui est très net. Le shadow banning en est justement un bon exemple. Mais on voit aussi un autre mouvement qui est la reconnaissance de nouveaux droits pour les usagers. Alors par exemple, un droit qui semble se généraliser et qui avec le DSA, donc le règlement européen dont on parlait tout à l'heure, se généralise, qui est le droit de faire appel pour exiger que... on revoit les décisions des plateformes quand un contenu a été supprimé notamment. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Mais effectivement, on voit bien aujourd'hui que les réseaux sociaux qui étaient vus comme des outils au service de la démocratie, au service de la liberté d'expression, de plus en plus sont vus comme quasiment des ennemis de cette démocratie et de cette liberté d'expression. Est-ce que les réglementations actuelles vont suffire à inverser la tendance ? Ça, c'est le futur qui nous le dira.
Donc réguler sans restreindre la liberté d'expression, c'est un petit peu l'équation que doivent résoudre aujourd'hui les États.
Exactement, une équation très, très difficile, puisque effectivement, à chaque fois qu'on régule, qu'on restreint quelque part l'expression des internautes, on a du mal à concilier les deux, mais il ne faut pas perdre espoir, il y a quand même des pistes qui se mettent en place, des pistes intéressantes, et puis il ne faut pas non plus oublier que malgré toutes les controverses qu'on a abordées aujourd'hui, les réseaux sociaux sont quand même un outil qui permet aux citoyens de s'exprimer, de se mobiliser, et ils ont quand même une fonction démocratique qui reste importante.
Et on va finir sur cette petite note d'optimisme. Merci Romain Badoir. Je rappelle que
merci,
vous êtes chercheur en sciences de l'information et de la communication, maître de conférences à l'université Paris 2 Panthéon Assas. Sur fond d'embrasement du Proche-Orient et de guerre en Ukraine, un narratif revient en boucle sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, celui de l'imminence d'une guerre nucléaire. Un récit alarmiste, souvent poussé à coups d'infox. Olivier Four, de la cellule InfoVérif de RFI, s'est penché sur une vidéo trompeuse vue plusieurs millions de fois.
Vérification faite.
Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
Cette vidéo montre des soldats américains en train de fixer des missiles de croisière sur des bombardiers stratégiques. Différents comptes s'en servent pour soutenir l'idée que l'armée américaine serait sur le point de mener des frappes nucléaires. Seulement voilà, Olivier, cette vidéo est sortie de son contexte.
Les images sont impressionnantes. Un convoi de véhicules militaires lourdement chargés de missiles de croisière passe devant un alignement de bombardiers stratégiques américains. La vidéo a fait le tour des réseaux, accompagnée de commentaires comme « Alerte, Troisième Guerre mondiale, les tensions au Moyen-Orient s'intensifient, les B-52 sont chargés d'ogives nucléaires ». Sur YouTube, un autre compte veut laisser croire que ces bombardiers arrivent en Ukraine. Sur un troisième, d'origine turque, ces mêmes images ont été vues plus d'un million de fois. On peut y lire « Les bombardiers américains se sont posés sur la base de l'OTAN d'Incirlik, dans le sud du pays. » Mais toutes ces publications sont trompeuses.
Alors, on parle de Turquie, d'Ukraine. Vous avez vérifié, Olivier, la scène a été filmée aux États-Unis.
Oui, dans le Dakota du Nord, précisément. Ce qui nous a mis sur la piste, c'est le code inscrit sur la queue des bombardiers. Sur certains avions, on peut lire les lettres MT. C'est le code pour Minute, qui est une base stratégique américaine. Après recoupement, nous avons établi que ces images ont bien été tournées sur cette base de bombardiers nucléaires.
Alors on sait où elles ont été tournées, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elles ont été tournées ?
Oui, la vidéo date du 4 avril dernier. Nous l'avons retrouvée tout simplement sur le site de l'agence de presse vidéo de la défense américaine. C'était donc 10 jours avant les frappes iraniennes sur Israël. En fait, il s'agit des images d'un exercice régulier destiné à entraîner les armuriers de l'US Air Force avec des munitions factices, un entraînement au sol des mécaniciens qui ne constitue pas les prémices d'une guerre nucléaire.
Oui, un exercice militaire aux États-Unis, mais alors d'où vient l'ambiguïté de ces postes ?
Eh bien parce que les auteurs mélangent le vrai et le faux, comme bien souvent, et jouent avec les peurs du public. Au Moyen-Orient, il y a déjà eu ce que l'on appelle de la gesticulation nucléaire, particulièrement en 1973, pendant la guerre du Kippour, mais on voit bien que les protagonistes ne sont pas sur le point d'avoir recours au feu nucléaire, comme pourrait le suggérer la vidéo. Il y a régulièrement des démonstrations de force de B-52 dans le voisinage de l'Ukraine, puisqu'on en parlait, mais pas en Ukraine même pour bombarder les soldats russes. Enfin, il y avait cette semaine des bombardiers américains de passage à Incirlik, en Turquie, mais c'était des B1 et pas des B-52, et les B1B ont désormais perdu leur capacité nucléaire. Toutes ces informations sont disponibles et permettent d'y voir clair, à condition de ne pas se laisser submerger par les émotions.
Merci Olivier Faure, on retrouve votre chronique plus en détail avec tous les liens et les images qui vont bien sur le site de RFI.fr avec le tag InfoVérif. Les images ont fait le tour du monde. L'aéroport de Dubaï inondé des suites d'une tempête. En quelques jours, plusieurs pays de la péninsule arabique ont été balayés par des précipitations extrêmes. Un événement climatique ciblé par les théories complotistes. Bonjour Juliette Gache.
Bonjour.
Journaliste aux Observateurs de France 24, vous avez travaillé sur ces fausses informations. Ce qui inspire les complotistes, ce sont notamment les techniques de modification du climat déployées dans la région, notamment l'ensemencement des nuages. L'occasion pour certains de partager la fameuse théorie des chemtrails, Juliette.
Effectivement. Pendant et après les inondations, on a vu des publications sur les réseaux sociaux s'emparer du sujet pour parler d'une théorie du complot assez populaire, la théorie des chemtrails, ou traînées chimiques en français. Les chemtrails, ce sont supposément ces traces blanchâtres que laissent les avions dans le ciel. En réalité, ce sont des traces de condensation, mais certains assurent que ce sont des produits chimiques qui empoisonneraient les populations. Pour asseoir leur théorie, des groupes complotistes ont partagé un article de l'agence Bloomberg qui affirme que les techniques de modification du climat utilisées par les Émirats Arabes Unis auraient pu aggraver les inondations. Leur argument, c'est de dire que ces techniques, comme l'ensemencement des nuages, sont la preuve que les chemtrails existent.
Si les traînées chimiques n'existent pas, Juliette, de quoi parle-t-on quand on évoque des techniques de modification du climat ?
Dans le cas de l'ensemencement des nuages, on va essayer de provoquer des précipitations. Donc pour ce faire, on va s'approcher en avion des nuages et projeter en général des cristaux de sel à l'intérieur. Ça va permettre d'agréger l'eau potentiellement présente dans ces nuages, et une fois agrégée, les gouttes plus lourdes ou les cristaux de glace formés vont tomber et il se met à pleuvoir. Pour nous expliquer la différence entre cette technique et les chemtrails, les observateurs ont contacté Andrea Flossmann, qui est co-responsable du groupement d'experts sur la modification du temps pour l'Organisation météorologique mondiale. La première différence dont elle nous a parlé, c'est que la théorie des chemtrails s'appuie sur l'observation des traces laissées par les avions, donc à une dizaine d'altitudes de kilomètres. L'ensemencement des nuages, au contraire, ça se fait sur des nuages le plus bas possible pour maximiser les chances de pluie. Elle nous a également rappelé que l'ensemencement des nuages se fait aussi à un niveau extrêmement local, là où les chemtrails seraient en fait un complot mondial contre la population.
L'ensemencement des nuages, d'ailleurs, est aussi un sujet de controverse.
Bien sûr. Et c'est en s'appuyant sur ces failles et les doutes de la science que les discours complotistes se consolident. Dans le cas des inondations à Dubaï, un météorologue a affirmé que des ensemencements de nuages réalisés par les Émirats Arabes Unis avant les inondations, aurait aggravé la situation. C'est vrai que les Émirats Arabes Unis ont ensuite nié avoir utilisé ces techniques juste avant les inondations. Andrea Flossmann, notre experte, a jugé cette affirmation peu crédible. Et des experts interrogés par la BBC notamment ont jugé que même si des vols d'ensemencement avaient eu lieu, les effets sur les précipitations auraient été mineurs. Le principal responsable de ces pluies diluviennes, finalement, resterait bien le changement climatique.
Merci Juliette Gache. Toutes vos vérifications sont à retrouver sur le site des Observateurs de France 24. Les Dessous de l'Infox, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver en ligne en tapant RFI InfoVérif sur votre moteur de recherche. Merci à notre invité, à nos chroniqueurs et chroniqueuses, ainsi qu'à Arthur Bon à la réalisation de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine et avant ça, place à l'information sur RFI.
C'était donc Grégory Genevrier pour Les Dessous de l'Infox, à retrouver sur le site de Radio France Internationale.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Dans une demi-heure, pour être précis, dans 32 minutes, ce sera Afrique Soir et ce sera avec vous, Zéphirin Quadio, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous.
Elle a une ce soir, la politique au Togo. Hein.
Oui, les Togolais, les députés togolais sont réunis depuis ce vendredi midi à l'Assemblée nationale pour examiner en seconde lecture le projet controversé en de nouvelles constitutions qui divisent le pays depuis fin mars. Et cela à 10 jours des élections législatives et régionales. Les parlementaires avaient déjà adopté le 25 mars la nouvelle constitution qui ferait passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Mais devant le tollé provoqué par cette réforme qualifiée de coup d'État constitutionnel par l'opposition, le président Faure Gnassingbé avait demandé qu'il procède à un nouveau vote.
À la une également cette information RFI concernant le Gabon.
Oui, les autorités ont annoncé une réforme en profondeur du système judiciaire. Ces derniers mois, plusieurs experts ont planché sur le sujet dans le cadre d'un groupe de travail. Ils viennent de proposer les axes de cette réforme.
Et puis la présidentielle du 6 mai prochain au Tchad et la campagne qui bat son plein.
Oui, et puis RFI qui donne la parole aux candidats après les interview sur RFI et France 24 du président candidat Mahamat Idriss Déby et du premier ministre candidat Succès Masra. Nous entendrons ce soir l'opposant Albert Paimi Padaké qui est arrivé officiellement deuxième à la présidentielle d'avril 2021.
RFI Soir continue juste après ceci.